pas, mais on jamais.
Alors, oui, il se passe des choses. Bien. Alors, je repars de cette première remarque. C'est que le conflit avec l'islam n'a jamais été vraiment un conflit théologique. Les vrais théologiens musulmans savent que la révélation s'est faite à Israël par la Torah et qu'ils adorent le Dieu d'Abraham tel que les Juifs l'ont enseigné. Tel que ça. Le conflit est politique. Ce qu'ils nous disputent, c'est la terre, c'est pas le ciel. Clair ? Ils savent qu'au ciel, ils sont génies. Là, ils le disent en clair. J'ai compris ce truc-là. Les chrétiens, c'est la paix. Donc, le conflit avec les chrétiens est théologique. Alors, vous voyez, pourquoi deux types différents de vie de la galoute se sont constitués ? Parce que nous ne vivions pas le même problème, Sfarad et Majinat. Un Sfarad vivait en termes d'islam. L'islam ne lui a jamais contesté le fait que c'est lui le peuple juif. Okay ? Vous suivez ? Je vais vite, mais c'est très important. On reprendra ça d'autre part, mais je vais bien vous dire ça. Il y a eu toujours une sécurité théologique de l'âme juive sfarade en terre d'islam. Il n'y a pas eu de contestation d'identité. Jamais un musulman ne nous a dit « c'est moi Israël, c'est pas toi ». Le musulman nous disait « c'est toi Israël, mais tu n'as pas le droit à la terre ». C'est clair ? Tu n'as pas le droit à l'entité politique. Et quel est le conflit avec le monde arabe ? C'est celui-là. Son frère nous a traité comme une vraie religion, mais pas comme un État. Et je ne suis pas chez eux, parce que là, ils sont sûrs que c'est chez eux. Ils ne font aucune illusion. Eux, au moins, ils croient à ce qu'ils disent. Et il faut toujours croire l'adversaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec les Allemands. Hitler a écrit un livre pour dire ce qu'il allait faire. Personne ne l'a cru, mais il l'a fait. Vous avez lu Mein Kampf. Alors, lisez ça. Vous verrez comment tout le programme de ce qu'il voulait faire, il l'a dit en clair. Personne n'a voulu le croire. Bon. Alors, je reviens donc à ce problème. Vous voyez pourquoi, si vous voulez, l'âme sfarade, la culture sfarade, est différente de la culture ashkénaze du point de vue existentiel, pas du point de vue de tradition, religion, Torah, c'est la même. Mais l'insertion dans l'existence a fait vivre aux ashkénazim un problème différent que celui qu'ont vécu les sfaradim. Et je vous dirai une chose, ça se reflète dans toute la différence des mœurs entre les deux communautés. Prenez par exemple la musique. Il est bien évident que la musique ashkénaze est d'influence européenne. Chaque communauté a reçu l'influence de la musique des goïms qui vivaient de la même manière pour les sfaradim. Mais indépendamment de cette influence que d'un côté il y a une musique arabe, de l'autre côté il y a une musique européenne, la manière de chanter est différente chez le Sfarad et chez l'Ashkenaz parce que le problème spirituel est différent vis-à-vis du Kohen. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les Ashkenazim ont eu une histoire beaucoup plus tragique que les Sfaradim du point de vue spirituel. On va dire du point de vue des persécutions, c'est les mêmes. Et quand les Arabes persécutent les Juifs, quand les Européens persécutent les Juifs, c'est de la persécution. Ça a pris de toute autre dimension en Europe, avoir des dimensions du problème, mais finalement la souffrance juive pure et simple, c'est la même. Mais le conflit d'identité n'était pas du tout le même. L'Ashkenaz et son goy, il y avait le problème Jacob et Esaü, qui est Israël ? Est-ce que c'est clair ? Ça vous fait comprendre pourquoi une dimension tragique d'angoisse dans l'identité Ashkenaz qu'il n'y a pas dans l'identité Israël. C'est pourquoi je vous dirai une chose qui va peut-être vous étonner. Le problème du maranisme, c'est un problème ashkénaze, c'est pas un problème sfarad. C'est-à-dire, être en question d'identité, qu'est-ce que je suis vis-à-vis de l'autre? Et ça va très loin. Aujourd'hui, vous avez des écrivains juifs sfarad qui vivent en vie ashkénaze, ils vivent le maranisme. Ashkénaze, par exemple, des écrivains comme Memi, comme Mizrahi, qui sont d'authentiques sfaradim d'origine, mais leur problématique est ashkénaze. Vous voyez cette espèce de doute sur sa propre identité. Qui suis-je ? Parce que l'autre me dit que c'est lui qui est moi. Mais ça, c'est le problème. Jacob les a eus. C'est pas le problème des actions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette prophétie ?
Dans
mais si Ismaël ne conteste pas Israël, son identité religieuse, son identité religieuse. Et dans la mesure où Ismaël était déjà maître de Eretz Israël, pourquoi y a-t-il des persécutions contre les Juifs en terre d'Israël?
Bon, d'une part, il y a le problème de la xénophobie antisémitisme comme phénomène humain. Il y a le fait que les Juifs étaient une minorité opprimée du point de vue politique. Et que, bon, ça vous avez appris avec Oleg, je suppose, les motivations de l'antisémitisme, elles sont à différentes étapes. Mais l'élite musulmane a toujours respecté l'élite juive au point de vue intellectuel comme ses maîtres. Et je me rappelle encore quand j'étais enfant, je m'en rappelle très souvent, quand le mufti de la ville envoyait chez mon père, qui était rabbin de la ville, demander des renseignements comment on fait pour Oshrodesh. Je ne sais pas s'ils n'ont pas les mêmes règles, mais ils ont les mêmes Oshrodesh. Ils ne savent pas comment on définit leur Oshrodesh quand il y a des nuages. Alors on envoie à la synagogue pour demander au rabbin comment il faut que les musulmans fassent. Est-ce que c'est demain, après-demain ou l'avant-veille? Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque fois, ils nous envoyaient les gâteaux, on ne mangeait pas, bien sûr, mais des énormes machins de gâteaux et on a vécu cela. Ils s'adressaient aux rabbins comme leur maître. Voilà. Mais il y a malédiction politique, la terre, ça appartient aux Arabes et aux la terre entière. Dans la mentalité musulmane, partout où une fois on a dit la prière musulmane, c'est terre d'Islam. Et ça ne peut pas être donné aux invisibles. Comprenez bien cela. Ça fait partie de leur dogme. Et le monde entier est destiné à devenir l'islam pour eux. Il y a que, je vous le dis en arabe, il y a que Dar l'islam, c'est-à-dire la maison de la soumission à Dieu à la manière musulmane, Dar al-Harb. Dar al-Harb, ça veut dire en arabe la destruction. C'est ou la mosquée, ou on est tout. C'est leur dogme, c'est comme ça. Ils sont investis d'une mission sacrée de convertir le monde entier à l'islam. Alors partout où on a dit la prière musulmane, c'est terre d'islam. Et c'est irréversible. Par conséquent, n'ayez aucune illusion à ce sujet, un musulman croyant, pour lui, tout terre d'Israël, c'est dans l'islam. Ça va bien. Et bientôt l'Angleterre, parce qu'ils sont en train de construire des mosquées partout. Mais ça veut dire, c'est chez nous. À Paris, il y a une grande mosquée. Oui, première Paris, c'est bien, à Londres. En fait, c'est ça. Vous êtes en train d'assister à l'expansion islamique, et vous voyez à quel point c'est énorme. Et regardez bien que Esaü se laisse faire. Esaü se laisse faire. Il se laisse acheter par le. Bon, alors voilà le premier point. C'est-à-dire que le conflit entre Ishmaël et Isaac, c'est la terre. Le conflit entre Jacob et Esaü, c'est le ciel. Je vous dis ça sous forme imagée pour parler vite, mais vous comprenez tout ce qu'il y a derrière. Okay? Alors vous comprenez déjà, j'ai fait simplement allusion à quel point la conscience juive, existentielle, ashkénaze, sfarade seront différentes. Parce qu'on a vécu un problème dans l'existence radicalement différent. Est-ce que c'est clair? Alors voilà ce que dit cette prophétie, c'est que ces deux conflits se résoudront à la fin des temps. Je vais juste les mettre en tableau. Ismaël et Isaac sur la terre. Et le ciel, c'est les amis. Alors là, je vous schématise énormément de textes que je vous citerai plus évidemment quand vous citerez maintenant. Et c'est ceci, c'est que c'est Jacob qui va aider Isaac à triompher d'Ishmaël sur son problème. Et c'est Isaac qui va aider Jacob à triompher des Esaü. Alors, je vais vous montrer d'abord. C'est Isaac qui va aider Jacob à vaincre Esaü. Et c'est Jacob qui va aider Isaac à vaincre Ishmaël. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Alors, pendant ces 2000 ans d'exil, il y a toujours eu une communauté juive en Eretz Israël. Elle a toujours été ce pas-là. Parce que là, je me réfère à tout le principe qu'on a vu de la votre part, les Sfaradim sont des exilés du deuxième plan, alors que les Ashkenazim sont des exilés du premier plan. En conséquence, c'est normal qu'effectivement, pendant tout le temps de ces 2000 ans d'exil, Isaac est resté en Eretz Israël, la communauté juive était Sfarad. Je vous dis une petite anecdote, quand les Ashkenazim ont commencé à venir au temps du Sinaï, il a fallu que le Rishon et Tzion de l'époque attestent aux autorités turques que les Ashkenazim c'était bien des juifs. Et nous avons le document. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient avec une allure tellement différente que les juifs sfaradim que les turcs connaissaient, qui se sont dit, nous avons des histoires, c'est pas des juifs, c'est une autre religion. Il a fallu que les rabbins sfarad témoignent que c'est vraiment des juifs de la même religion. Les Ashkenazim sont arrivés très tardivement au temps du sionisme politique, à partir du 18e siècle. Vous comprenez avec le document. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Et le sionisme politique, la force politique nationale, est sortie des Ashkenazim. Et c'est les Ashkenazim qui ont reconquis l'Eretz Israël sur le chemin. Les Sfaradim n'ont jamais pu le faire. Vous avez compris? Inversement, tout le problème de l'assimilation dans, je prends une dimension de cette question, en particulier dans la culture européenne, c'est que Esaü est en train de s'assimiler spirituellement tous les juifs. Vous voyez, cette bande de l'assimilation, qui était une christianisation massive du judaïsme européen à travers l'athéisme même, mais une absorption, dès l'ouverture des ghettos, les juifs se faisaient absorber par l'assimilation occidentale. Or, c'est la tradition sfaradique qui a stoppé ça. Et je vous montrerai très simplement comment. Dans le conflit théologique entre Jacob et Esaü, c'est la Kabbalah, la tradition kabbaliste, qui a pu s'opposer au christianisme. Et elle vient des sfaradiques. De la même manière que dans, inversement, dans le conflit politique entre Isaac et Ishmael, Tzahar est sorti du système politique par les communautés sfaradiques. Vous avez compris, j'ai beaucoup schématisé, mais on voit comment ça va, ce s'est croisé. Et nous avons des versets très clairs. Tant qu'Isaac est vivant, Esaü ne peut rien contre Jacob. Tant que Jacob est vivant, Ishmael ne peut rien contre Jacob. Bon, ajouter un autre principe, et c'est comme ça que ça s'est passé. Qui a délivré Israël? Les Ashkenazim. Qui a délivré le peuple juif de l'assimilation au christianisme? C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez aucune, à travers les siècles, aucune controverse théologique avec l'Église menée par les Ashkenazim. On paralyse les gens. Toutes les controverses théologiques, c'est les Sfaradim qui les ont menées. Et vous comprenez pourquoi? Parce que l'identité sfaradite n'est pas dans la problématique judéo-chrétienne qui est Israël. Ça, c'est le problème des Européens. Est-ce que vous avez compris ça? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous êtes un peu familier à ce problème, vous verrez à quel point les Ashkenazim capitulent devant l'Église dès qu'on aborde le problème théologique. Alors que c'est les Sfaradim ceux qui le donnent. J'ai trouvé ça dans l'expérience. Vous avez remarqué? Pour ça, je vous dis maintenant que vous êtes en problématique ashkenaz en Europe, méfiez-vous des dialogues judéo-chrétiens à la manière ashkenaz. C'est la panique. Parce que c'est un problème de 2000 ans. Qui est Israël? Est-ce que c'est Jacob ou Esaü? Alors ce problème-là, les Sfaradim étaient en dehors, c'est la raison pour laquelle on est décontracté devant les cuvettes.
Isaac et
Ishmael.
C'est ça que c'est les Sfaradim qui resteront pour d'autres moments qui seront...
Ah, ça d'autre part. Maintenant, je vais vous dire, j'ajoute un dernier principe, et on va encore très vite aujourd'hui, mais comprenez bien cela. Sfarad, Ashkenaz, c'est déjà perdu. Ça, c'est les dimensions juives de l'exil, fini. Dans les temps qui viennent en Israël, on sera ni Ashkenaz ni Sfarad, on sera Israël. Est-ce que c'est compris? Il y a toute une période de transition. Israël d'origine Ashkenaz, Israël d'origine Sfarad, et ça va durer des générations, jusqu'à ce que l'Hébreu survive de cela. Mais tout ça, ça sera rejeté dans la préhistoire. Qu'est-ce que ça veut dire Sfarad, le judéo-arabe? Qu'est-ce que ça veut dire Ashkenaz, le judéo-chrétien? C'est pas nous. Ça, c'est la préhistoire de vie. C'est destiné à disparaître. Et regardez, je ne sais pas si vous l'avez exprimé tout ça. Enfin, j'anticipe, bien sûr. Mais regardez quelle espèce de portion de générosité de la Bible contient à se nommer du nom de nos pires assassins. Les deux principaux ennemis du peuple juif, c'était les Espagnols et les Allemands. Et à quoi on passe son temps? Ah, je dis disparate espagnol. Ah, je suis ashkenaz, ça veut dire avant. Il faut être à envers presque. C'est-à-dire qu'on arrivera à un temps où ces noms-là, Sfaradi, Ashkenazi, seront remis à leur place. Ça veut dire les pires barbares qu'on ait jamais connus, et les Espagnols et les Allemands. Oui. D'ailleurs, personnellement, un problème familial, il faut que je change de nom, parce que je suis porteur de ma mère Ashkenaz, et on attend que toute la famille soit d'accord. Et on... Parce que ça veut dire avant. Si vous avez un nom proposé, j'ai pu tirer vos propositions.
Oui, mon tailleur.
Et surtout, ne me dites pas de Sarvati.
La Kabbalah de l'Israël, je ne suis pas au courant.
C'est pas au courant. Ben, vous l'apprendrez. Ben, je vous ai expliqué une jolie chose au tableau tout à l'heure, mais c'est très simple. Retenez le premier principe. Vous aurez certainement à rencontrer des théories des historiens complètement différentes, mais peu importe, moi je vous donne la ligne traditionnelle. Les communautés ashkenazes sont des communautés, des descendants, des exilés du premier temps qui ne sont pas revenus au temps de Israël. Mais c'est pourquoi cette tradition ashkenaz s'est constituée avec son style propre aussi différent de ce qu'aura pu être les 400 ans qui ont suivi l'identité judéenne du deuxième temps. Les Sfaradis sont les exilés de la destruction du deuxième temps. Or, c'est la raison pour laquelle l'hébreu des Sfaradis et l'hébreu des Ashkenazim étaient si différents. Parce que l'hébreu des Ashkenazim était un hébreu au second degré. Ils étaient les exilés de l'exil de Babel. Vous suivez ? Tandis que les Sfaradim étaient directement les exilés de Jérusalem. Ok ? Bon. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres des Sfaradim étaient les disciples directs des Tanaïm, qui étaient eux les derniers disciples des prophètes. La Kabbalah a passé par Eretz Israël, et c'est pourquoi elle a été transmise par les Sfaradim, qui l'ont transmise par ailleurs aux Ashkenazim. Mais elle vient de l'identité d'Eretz Israël. Alors que les communautés ashkenazes recevaient des livres, alors que les Sfaradim d'Eretz Israël avaient des maîtres. Et la tradition orale est passée en Eretz Israël. C'est ça la grande. Et ensuite, assez rapidement d'ailleurs, les Ashkenazim ont reçu la Kabbalah des maîtres Sfaradim. Vous voyez que ce qu'on appelle les Rishonim, avec une licence de biographie. Déjà, vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes encore. Après l'époque du Talmud, les premiers grands décisionnaires s'appellent les Rishonim. Tous les Rishonim sont tous des Sfaradim. Les Aharonim, ceux qui sont venus après sont aussi Ashkenaz. Il n'y a aucun Ashkenaz chez les Rishonim. Vous connaissez, vous savez. Reprenez dans votre grand tableau. Là. Bon, ça, je ne sais pas si je vous l'avais indiqué, mais en fait, c'est une indication de l'enjeu des Kabbalistes. C'est-à-dire que les quatre méthodes de lecture traditionnelles sont le Pshat, le Chant, le Rémez, le Rach, le Sot. En fait, ça fait le mot Pades. Mais lorsque le sol est d'abord, ça fait. Oui, alors rapidement,
j'ai pas très bien saisi la différence entre Bakol et Nikol.
J'arrive. Et alors voilà, donc je lis ce verset. Il s'agit d'Ishmaël. Yado Bakol, sa main sera sur Abraham. Et Yad Kol, et la main de Jacob, Kol, Bon, sera sur lui. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Ça, je ne veux pas trop analyser cela. Maintenant, effectivement, grosso modo, je vais prendre un peu à la question. Abraham a été béni en toutes choses. Mais Isaac est une partie de l'identité d'Isaac maintenant à Jacob. Nico, du tout. Tandis que tout Jacob, c'est Israël. Et alors, ces deux plans de sélection de l'identité dont je vous avais parlé, il faut que la spécificité araméenne d'Abraham quitte pour que Jacob devienne Israël. Il y a une dimension extérieure par Ishmael et une dimension intérieure par Esaü. Pour que l'identité Abraham devienne Israël à l'échelle universelle, il faut qu'elle soit débarrassée de ce qu'il y avait de spécifique dans l'identité araméenne acquise dans l'exil de Hokkaï.
Ça va, monsieur? Si dans le texte, quand tu dis Baïkar, c'est Abraham, c'est Abraham, est-ce que sur l'impact technologique de Baïkar, c'est Abraham, c'est Abraham?
Non, parce que c'est en vue de son identité. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et tandis que, comme vous savez, Ishmael est né d'Abraham, pas d'Abraham. Bien. Alors, je vois que le temps va vite, je vous fais même un peu avancé. Alors, voilà pour cette Mishnah. Pourquoi la Haggadah nous raconte l'histoire de cette manière? Alors, rappelez-vous bien ces deux dimensions. Ce n'est pas Abraham qui descend en exil, mais la postérité de Jacob. Il faut d'abord que sorte de cette famille Ishmaël d'un côté, Isaac de l'autre, Esaü de l'autre, c'est clair? Et quand la famille de Jacob se constitue, c'est elle qui commence la vraie histoire de la descendance d'Abraham. Premièrement l'exil, deuxièmement la Bible. Et cette dialectique, Galout et Yehuda, mène cette descendance d'une part. En fait, mène cette descendance dans les deux dimensions à être apte à l'accomplissement du promesse faite à Abraham. La terre d'Israël et la Torah. C'est clair? Vous voyez comment, dans l'histoire, Ishmaël d'un côté et Esaü de l'autre ont se constitué en rivalité contre Israël. Et le peuple juif et les historiens de l'avenir n'arriveront jamais à comprendre comment ça va se passer. Ce tout petit peuple qui a eu, à travers des milliers d'années, à être en but à ces deux rivalités. Une qui vient d'Ishmaël et l'autre qui vient d'Edom. Alors, tout à l'heure, nous avons fait comprendre deux choses. Entre autres, comment s'est constitué dans l'identité d'exil deux mondes juifs différents. Et c'est très schématique parce qu'à l'intérieur du monde sfarade, il y a mille manières d'être sfarade. Ça dépend du Kohen chez qui on a vécu. Vous comprenez? À l'intérieur du monde ashkenaz, de la même manière. Mais il y a 300 000 manières d'être ashkenaz. Mais deuxièmement, que tout cela fait partie de l'histoire de l'Église et donc est destiné à se développer. Bien. Je vais quand même ajouter autre chose. Mais c'est même quand même, vous allez les voir prendre leur retraite ici. quand ils auront fini de manger cachère. En tout cas, pour revenir à notre problème, c'est la question fondamentale. Dans les apparences, lorsque le sionisme politique s'est constitué dans une position anti-traditionnelle. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait aussi des religieux avec. Mais le gros effort du mouvement sioniste politique, c'était de rompre avec la tradition juive pour redevenir la voix de l'Israël. Je vous l'explique. Une fois, maintenant, que je pensais que c'était vous, il était malheureusement inévitable que ça se passe comme ça. Parce que la communauté juive était tellement enquistée dans la symbiose judéo-goy, et c'était ça la synagogue, qu'il fallait démolir la synagogue pour redevenir la voix. Je peux me permettre de parler de façon aussi carrée, puisque je suis parti du judaïsme traditionnel. Vous voyez, si c'était un sioniste sioniste qui vous disait ça, alors ça passerait pas. Mais sachez que c'est comme ça que c'est. Malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire que, parce que la prise de conscience nationale s'est faite, elle s'est faite contre la tradition juive de la communauté. Et on paye encore les conséquences. Pourquoi ? Parce que la tradition juive de la communauté a fermé les yeux sur les événements. Et n'a pas voulu se rendre compte que le temps est venu de décrocher. Et la raison pour laquelle ce dossier est tellement nourri de cette apparente théorie, le sionisme est-il le messianisme ? La réponse générale du judaïsme religieux de la Velouté, c'est de dire évidemment pas, ce sont les péripéties historiques, kibbutz, agents juifs, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et je pense que vous avez suffisamment ouvert les yeux sur la réalité pour savoir à quel point ces gens-là sont dans un cauchemar. Alors en tout cas, pour revenir à notre problème, nous avons un certain nombre de textes qui datent du temps de Ezra. Et je vous les citerai. Ezra, au moment où il a commencé le juif, pour le deuxième temps, le deuxième royaume de Juif, a écrit à toutes les grandes communautés de la Gola de l'époque, dont le fond sera la racine du Juif de Ashkenaz. C'est clair. C'est-à-dire que les Juifs de Babel restaient dehors. Et qui se sont. Et là, ça constitue une tradition religieuse de refus du sionisme politique, en attendant le Messie de la fin des temps. Je vais schématiser, mais pour être clair. Et ça nous expliquera pourquoi, dans la tradition Sfarad et dans la tradition Ashkenaz, la position vis-à-vis du sionisme a été radicalement dure. Le milieu traditionnel Sfarad, dès que le sionisme politique s'est constitué, a rejoint. En masse. Alors que le milieu Ashkenaz a refusé. Pourquoi ? Parce que la tradition Ashkenaz s'est cristallisée il y a 2000 ans dans le refus du sionisme politique. On attend le sionisme mystique du messianisme de la fin des temps. L'idée d'un État juif était contraire à la tradition. Est-ce que c'est clair ? C'est la raison pour laquelle il y a eu ces conflits. Mais qu'est-ce qui sort de là ? Pour la tradition kabbaliste elle-même, le fait que le sionisme politique est apparu chez les Ashkenazim, c'est le signe qu'il est messianique. Voilà ce que je veux dire. Ce texte que nous avons, je vous en citer en mémoire d'ailleurs, c'est que quand les Ashkenazim reviendront en Israël, c'est ça le signe du temps messianique. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui avaient reçu. Vous avez compris pourquoi ça avait commencé un tel conflit en milieu Ashkenaz. Est-ce que c'est clair ? Ça a l'air d'être paradoxal que le sionisme politique est sorti des Ashkenazim et que cependant c'est la tradition Ashkenaz qui l'a combattu. Mais c'est pas paradoxal. Et je vous donnerai une règle à laquelle vous avez bien réfléchi. Tous les rabbins Ashkenaz qui ont étudié la Kabbalah sont sionistes. Il n'y a pas de doute. Et tous les rabbins Sfarad qui ont étudié chez les Ashkenazim sont anti-sionistes. Il n'y a pas de doute. Vous avez remarqué ça ? Je me rappelle, moi, quand j'étais en France, le drapeau juif, comme il disait, enfin, le drapeau sioniste, il était dans la synagogue. En milieu de Sfarad, ça allait de soi. À la fin de Pessah, on chantait la laine sur l'aile de la Hatikva. En milieu Ashkenaz, ça aurait été une hérésie. Quoi ? Le drapeau des Rilonim dans la synagogue ? Vous voyez un peu le fichier. Alors, avec le temps, les dernières générations pestiférales, il y a énormément de rabbins, surtout de jeunes rabbins, qui sont anti-sionistes. Mais c'est le signe qu'on ne sont plus, voilà. Ils ont appris dans les écologistes. C'est vrai, il n'y a pas
de qui ont continué la tradition de Farad sont tous aussi devenus.
Et ceux qui ont appris dans les Mishnah d'Ashkenaz sont tous devenus antisionistes. Inversement, tous les rabbins Ashkenaz qui ont appris la Kabbalah sont tous sionistes et yabanais. Vous voyez, c'est clair? Et vous voyez, encore une fois, dans quelle génération nous vivons? Ça se remet en place. Alors, c'est ce que je voulais vous citer. Le signe que le sionisme politique est cachère, ça peut être très paradoxal, c'est qu'il sort des Ashkenaz. Vous comprenez ce renversement? Et alors nous avons une tradition comme ça, c'est qu'il y a deux étapes messianiques. Il y a d'abord l'étape nationale de reconstitution de la nation hébraïque, et c'est la messianité qu'on appelle en hébreu traditionnellement le Mashiach Ben Yosef, la messianité politique du fils de Joseph. Qui c'est Joseph? C'est le fils de Jacob. Donc Joseph sort de la Ashkenaz. Et ensuite, il y a le Mashiach Ben David. C'est la messianité spirituelle, donc de la transfiguration de la fin des temps. Et ça, c'est Mashiach Ben David. Et cette messianité-là sort d'Isaac, sort de Sfarad. Je vais vous donner le texte. Je vais dire de façon un peu schématique, ça a l'air un peu manquable. Mais c'est ce que nous vivons dans l'histoire. Le Mashiach Ben Yosef est Ashkenaz, Tsahal est Ashkenaz, et le Mashiach Ben David est Sfarad, la Torah est Sfarad, la nation est Ashkenaz, la Torah est Sfarad. Et c'est ce que nous vivons. C'est clair? Et par exemple, il y a un des grands auteurs des Ashkenazis, le Baratourim, je vais donner la référence. Voilà, lui, il dit, à la fin des temps, lorsque ce sera la chute d'Ismaël, alors viendra le fils de David qui est descendant d'Isaac. Quel rapport, le fils de David, il est aussi descendant d'Isaac. Alors, est-ce que veut dire le voilà, lui, okay. Nous avons un verset dans le prophète Obadiah, c'est que la force qui détruira Esaü vient de Joseph. Et Joseph vient de Joseph. Joseph, c'est la force nationale. Judas, c'est la force spirituelle. C'est ce grand conflit entre Joseph et Judas que nous racontons d'ailleurs à ce grand guerrier dans l'histoire des patriarches et il doit se résoudre à la fin. Et actuellement, tout se passe comme si ces deux forces sont en présence et se combattent. Remarquez cela. Un sionisme qui ne serait que politique, un Joseph qui ne serait pas le frère de Judas, et une Torah qui ne serait que spirituelle. Un Judas qui ne serait pas le frère de Joseph, c'est le conflit actuel entre Platinim et Rodin. Vous avez compris? Or, une dimension est venue de la force nationale du peuple juif, l'autre vient de la force spirituelle du peuple. Tant qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître, ils sont alliés à la même corde, et c'est le problème de la fin de l'histoire de la famille Jacob quand Joseph et ses frères se réconcilient. Et je vais un peu parler de ce sujet-là, mais c'est pour un peu les cristallis. Alors, pour me référer donc, à l'enseignement d'aujourd'hui, alors l'histoire a confirmé le texte. C'est-à-dire le Mashiach Ben Yosef est sorti de la communauté Ashkenaz. Et le Mashiach Ben David sort de la communauté Ashkenaz. Vous avez compris le. Et il y a une étape. D'abord, constituer la nation, et ensuite, lui donner son âme. Comme il y a une expression qui était très souvent employée au temps du sionisme, lorsque le monde religieux s'est divisé en deux, Mizrahi d'un côté qui était sioniste et la Gouda qui n'était pas. Et alors, il y a un peu ce tournée humoristique, la Gouda d'Israël voulait qu'on mette une mezouda. Et alors, il faut d'abord construire la maison avant de mettre la mezouda. Pas mettre la mezouda sur une maison pas construite. D'abord construire la maison avant de mettre la mezouda. Alors, de quoi nous étions partis, et bien de beaucoup de la foi, mais surtout cette Mishnah qui nous dit que seuls ceux qui ont vécu la dialectique d'Alou Géoula auront accès à la Torah après la Géoula de l'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé, et que seuls leur est promise et rédige, à eux, ni à Ishmael, ni à Isaac. Alors, comprenez que ce n'est pas par hasard. Pourquoi, quand les chrétiens d'un côté, et ça réclame la Terre Sainte, religieux, et que Ismaël, de l'islam de son côté, réclame la terre sainte. Ismaël. Mais qui a fait que cette terre est devenue? Ce n'est pas les paradis, c'est les acheteurs. Et qui fera que la Torah sera donnée? Ce n'est pas les acheteurs, c'est les paradis. Elle est une menace. Et finalement, l'une et l'autre identité finira par être perdue. On se rappellera de l'Espagne, on se rappellera de l'Allemagne. Pas plus. Mais on ne sera plus Israël ni Ashkenaz, on sera Israël. On se dit, je me rappelle de. Je vais simplement vous rappeler sur la première dimension, je vous dis très rapidement dans l'ordre rapide en détail, un enseignement du pays de Sadiq. Il dit ceci, rappelez-moi que on enchaîne la nature que j'ai. À la sortie des lits, Israël a pu avoir la Torah Shekhtar. À la sortie de Babel, il a eu la Torah Shekhtar. Et le temps de la Mishnah, c'est après l'exil de Babel. Vous voyez, historiquement, à la sortie des lits, la Torah Shekhtar. À la sortie de Babel, la Torah Shekhtar, la Mishnah. Et à la sortie de Edom, la Kabbalah. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, c'est très schématique. Ça ne veut pas dire que. Pendant tout le temps du premier temps, il n'y avait pas la Torah Shekhtar et la Kabbalah en Israël, mais seulement des initiés. Après l'exil de Babel, la Torah Shekhtar est donnée à tout le peuple. De la même manière qu'après l'exil de Dor, la Kabbalah sera à tout. C'est-à-dire que c'est trois niveaux d'expérience de la Torah qui peut être révélé par rapport aux trois niveaux d'expérience de la Kabbalah. Après l'exil, Torah de Moshe, après Babel, la Mishnah, après Edom, la Kabbalah. Et jusqu'où va le recodage.
Tout a été donné
au
moment où la Torah
est tard. Oui, mais la Torah, elle a été donnée à tout le peuple. La Torah, j'ai l'air de la Kabbalah est restée le propre d'initié. Après Babel, la Torah, j'ai l'air de aussi est entre les mains de tous. Et après ce troisième retour, la Kabbalah aussi sera.
Tout avait été
donné au début,
c'est
pas
réuni. Pardon.
C'est écrit.
Hein? Dans le Pentateuque. C'est écrit. C'est le Pentateuque, qui est un commentaire kabbaliste, Ashkenaz, sur la ligne de Shemot, juste au début de Shemot, vous avez cet enseignement. Cela sur le droit d'ailleurs, puisqu'il y aura trois exils. À la fin du premier exil, on a quatre Shemitah, à la fin du deuxième, on a Shemitah, à la fin du troisième, on a. Elle existe, elle est là, mais elle n'est pas disponible à terre. Et pas si vous remarquez cela, on n'est pas tellement familier avec ce qu'a été l'histoire traditionnelle jusqu'à nous, mais aujourd'hui il y a un phénomène d'édition du livre de la Kabbalah qui est phénoménal, alors qu'avant ça ne se fait. Moi j'ai étudié sur les manuscrits, et subitement on trouve tout entre les mains. Bien, alors on s'arrête là pour aujourd'hui, donc vous allez descendre une neige, je pense que votre main va déjeuner avec vous. Et à 2h, on se réunit ici pour la réunion, vous en anticipez.